Chapitre 6. La France, une nouvelle place dans le monde, 1945-1970. Cours 1. La France dans les relations internationales, 1945-1958. Comment restaurer la puissance de la France après la guerre? A. Les défis de la 4e République. 1. La refondation républicaine. À la Libération, une fois l'ordre républicain restauré, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, met en place de nouvelles institutions. La Constitution de la 4e République instaure, en 1946, un régime parlementaire. Toutefois, ce dernier est contesté dès sa naissance, notamment par Charles de Gaulle, favorable à un pouvoir exécutif fort. La conception gaullienne de la République s'oppose ainsi à celle d'un dirigeant politique comme Pierre Mendès France. 2. La reconstruction et la modernisation du pays. Au lendemain de la guerre, la 4e République permet la reconstruction du pays. L'aide financière du plan Marshall, 1947, y contribue de manière déterminante, tant la France est affaiblie économiquement en 1945. Les sommes allouées sont dépensées en achats aux États-Unis, qui demandent en retour une meilleure coordination des politiques économiques en Europe. La 4e République orchestre également la modernisation du pays. L'État intervient activement dans l'économie, notamment avec la mise en place du plan. 3. La guerre froide. Rapidement, la France reconnaît que son principal adversaire potentiel n'est plus l'Allemagne, mais l'Union soviétique. Pour rivaliser en cas d'affrontement avec cette dernière, la France intègre l'OTAN, 1949, une alliance défensive sous influence américaine. En se plaçant ainsi sous la protection nucléaire états-unienne, la France devient dépendante de la puissance américaine. B. La France dans la construction européenne. 1. La renaissance de l'idée européenne. Relancée par Churchill, la formule États-Unis d'Europe est mise en avant lors du congrès de La Haye, 1948, afin de promouvoir la construction européenne. Malgré les divisions entre fédéralistes et unionistes, ce congrès aboutit à la création du Conseil de l'Europe, 1949, dont le siège est à Strasbourg et qui se dote d'un texte fondateur, la Convention européenne des droits de l'homme, 1950. Cependant, le Conseil de l'Europe n'est ni une union ni une fédération. C'est une organisation rassemblant des démocraties attachées aux droits de l'homme. 2. Une création fondatrice, la CECA. La création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, en 1951, marque un tournant dans la construction européenne. À l'initiative des Français, Jean Monnet et Robert Schuman, encouragés par les États-Unis, la CECA rassemble 6 pays. La France, la RFA, l'Italie et le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Facteur de croissance économique pour les six, ce marché unique du charbon et de l'acier contribue aussi politiquement à la réconciliation franco-allemande. C'est une étape vers une communauté plus vaste, fondée sur les principes d'une Europe supranationale. 3. Le choix d'une Europe économique. Malgré ses progrès, la France refuse en 1954, après de vifs débats, le projet de Communauté européenne de défense, CED, c'est-à-dire d'une armée européenne. Les anti-cédistes craignent notamment d'abandonner une partie de la souveraineté militaire de la France. Avec cet échec, la construction européenne semble enlisée. La construction européenne est néanmoins rapidement relancée. L'engouement pour le nucléaire civil et le projet de création d'un marché commun en sont les moteurs. Ainsi, en 1957, les six signent à Rome deux traités qui instituent la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou Euratom, et la Communauté économique européenne, CEE. C. Une puissance coloniale sur la défensive. 1. Des résistances aux indépendances. Sous la 4e République, le maintien de l'empire colonial fait consensus car il permettrait le rayonnement international de la France. Toutefois, dans un monde où émerge le tiers-monde, la perpétuation du système colonial paraît impossible. Les premiers soulèvements indépendantistes sont réprimés dans le sang, à Madagascar en 1947 ou au Cameroun en 1955, l'emploi de la force armée ne suffit pas à lutter contre la montée des nationalismes. La guerre d'Indochine, 1946-1954, puis la guerre d'Algérie, à partir de 1954, ébranlent ainsi le régime. 2. Une politique coloniale française critiquée. Si les États-Unis avaient soutenu la France en Indochine par hostilité au communisme vietnamien, ils condamnent la politique française en Afrique du Nord dans les années 1950, Maroc, Tunisie, Algérie. L'URSS et ses alliés, notamment la Chine, soutiennent les luttes des peuples colonisés. La France ne trouve guère d'appui à l'ONU, qui affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tandis que plusieurs pays arabes, l'Égypte particulièrement, encouragent les nationalistes algériens. 3. L'impuissance de la puissance coloniale. En 1956, la France doit accepter l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. En Égypte, le président Nasser décide la nationalisation du canal de Suez, alors exploité par une compagnie franco-britannique. L'intervention militaire de la France et du Royaume-Uni, aidée pour l'occasion d'Israël, est condamnée par l'ONU, les États-Unis et l'URSS. C'est un fiasco diplomatique. La crise de Suez vient confirmer la perte d'influence des anciennes puissances coloniales, et particulièrement de la France, sur la région.